Radio Barque, pour terminer cette émission, troisième partie avec notre invité, Jean-Pierre Grotti, que vous connaissez plus ou moins, puisqu'il est déjà venu à ce même micro. Jean-Pierre Grotti, pour faire simple d'emblée, vous sortez un roman à peu près tous les ans.
À peu près, oui.
Voilà. Donc on vous avait vu et eu et entendu il y a à peu près une année. Vous avez sorti un nouveau roman qui s'appelle « Né de mère inconnue », je crois que c'est ça.
Deux mères inconnues,
mais sous-entendu, c'est bien
oui, né. Oui, bien sûr.
Le né ne fait pas partie du titre. C'est voilà, un style elliptique que vous avez voulu, j'imagine.
En fait, oui et non, parce que le personnage principal n'est pas tout à fait né de mère inconnue. On sait qui est la mère. Il n'y a que lui. Qui ne le sait pas.
Voilà. Et alors, ce personnage va être hanté par cet inconnu, justement, par le fait qu'il n'a jamais connu sa mère. Et ça va avoir des répercussions psychologiques relativement graves sur sa personne, sur son couple, sur beaucoup de choses.
En fait, bon, ce personnage souffre de deux choses. Bon, premièrement, effectivement, il est abandonné très tôt par sa mère. Et deuxièmement, et peut-être que c'est ce qui est le pire, c'est que sa famille refuse de lui donner la moindre explication, le moindre récit de cet abandon.
Il y a une sorte d'omerta sur la
vraie. Absolument. Une omerta certainement provoqué par un sentiment de culpabilité, une difficulté à savoir exactement ce qui s'est passé, même au sein de la famille. Bon, sachant ensuite que les principaux protagonistes sont déjà disparus, ce qui fait que en fait le personnage principal est dans l'incertitude, dans le doute, et je pense sincèrement qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude.
Et pour vous, ça justifie, ou en tout cas ça explique, des problèmes personnels continuels, des problèmes avec le couple, une façon aussi de rendre les autres responsables.
C'est un mécanisme très simple, hein, c'est exactement le même qui touche les gens qui sont malades ou qui disent qu'ils n'ont pas de chance, c'est « pourquoi moi ?». Tout le monde a une maman, tout le monde connaît sa famille, tout ça. Tout le monde est heureux, mais moi non. Et pourquoi? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai été un mauvais fils? Est-ce que j'ai eu une mauvaise mère? Etc, etc.
C'est-à-dire qu'il y a une culpabilité qui est bâtie et entretenue.
Oui, alors il y a une culpabilité qui est bâtie et ensuite qui est entretenue parce que ça devient une façon de vivre. Finalement, je suis agressif avec les autres.
Voilà, c'est pas ma faute.
C'est pas ma faute, c'est parce qu'eux, ils sont heureux, moi non. Donc, puisque je suis malheureux, j'ai le droit d'être méchant, j'ai le droit de rendre les autres malheureux. C'est une façon de vivre qui s'acquiert, puisque mon personnage a 50 ans et il a toujours fonctionné comme ça. En même temps, à travers ses amours, on peut dire, il va sans arrêt rechercher une image de mère quelque part, bon, qu'il ne trouve pas forcément. Et c'est vraiment une instabilité, une agressivité qui sont sa personne à lui.
Oui, qui pour vous semble presque logique.
Quand
vous avez exploré la psychologie du personnage.
Oui, il me semble que c'est logique. Bon, à côté de ça, je n'écris jamais un roman sans me renseigner, sans me documenter sur les personnages, sur la façon dont ils peuvent évoluer. Hein. Donc, je n'ai pas découvert cet aspect.
Et alors là, justement, ce personnage, ça devient une obsession pour lui. Il va, à partir d'un certain âge, se mettre en quête, véritablement, de retrouver sa vraie mère. Il finit par y arriver, puis alors là, c'est la déception suprême.
Je ne sais pas, sans vouloir. En fait, la chose qui paraît vraiment bizarre, c'est qu'il a attendu 50 ans,
Pour le faire.
Et je crois que c'est justement le résultat de cette omerta qui a pesé sur sa famille et qui a pesé aussi sur lui. Il a toujours pensé à cette femme, tantôt en disant le pire mal d'elle, tantôt en essayant d'un côté attendrissant, mais il s'est toujours interdit d'aller au bout. Et il faut vraiment qu'il y ait un déclic causé par une photo qu'il retrouve, par la mort de son père, tout ça, pour qu'il fasse sauter ce verrou qui dit, mais enfin, pourquoi je n'essaie pas de l'avoir, puisqu'elle existe.
Donc votre conseil dans ce cas-là, ça serait, dans de telles situations, ne pas attendre de vieillir.
Bon, moi, je pense, je l'ai déjà dit, je pense que la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est d'être dans le doute.
C'est dans l'incertitude.
Il vaut mieux savoir une vérité, même mauvaise, plutôt que rester dans l'incertitude, dans le doute, dans la supposition et la culpabilité, évidemment.
Voilà, et dans votre dénouement, eh bien, la mère, on s'aperçoit que c'était une hippie qui n'a pas du tout envie de voir son fils éventuel. Oui.
Je pense qu'en fait, c'était... Bon, quand elle l'a fait, elle était totalement immature. Elle a tiré un trait.
Oui, Michel, une remarque là-dessus.
Oui, Jean-Pierre, est-ce qu'on n'est pas tous, plus ou moins, à la recherche d'une mère inconnue? Voilà, est-ce qu'on n'est toujours pas, quand on est le fils d'eux, coincé entre une image d'une mère idéalisée, en fait, fantasmée, et puis une image de mère rejetée, en fait, idéalisée, fantasmée, en tirant sur un trait de son caractère, en fait, sa culture, sa gentillesse apparente quand on est enfant, ou rejeter à travers là aussi certains traits de son caractère ou son comportement ou de sa culture, sa violence, son origine sociale. Est-ce qu'arrivé à 50 ans, ou entre 45 et 50 ans, on n'est pas justement dans cette espèce de zone, en fait, où on commence effectivement à avec l'expérience, la maturité, effectivement, c'est de savoir à construire une image la plus réelle ou la plus authentique de sa mère?
Alors, que dit l'écrivain?
L'écrivain dit que cette remarque est extrêmement pertinente, parce que, en fait, des lecteurs m'ont fait remarquer dans des romans précédents que mon image de la mère était toujours une image négative, c'est-à-dire une mère castratrice, une mère qui était rigide, tout ça. Et cela m'a fait prendre conscience.
C'est presque le syndrome de vipère au poing.
presque. Mais en fait, cela m'a fait prendre conscience que je ne suis jamais sorti de mes relations difficiles avec ma mère. Et quelque part, je sais qu'on ne guérit jamais totalement de son enfance. Je pense que même à 50 ans, même à 60, même à 68 ans comme j'ai, on ne guérit pas.
Heureusement que c'est pas mortel tout de suite.
Quoi. Non, mais là j'ai voulu m'en guérir d'une façon littéraire, si vous voulez. Jusqu'à présent, dans mes romans, cette mère, elle était là, elle pesait par sa présence, ses dictats, etc., etc. Et bien là, je l'ai faite disparaître.
Ah
et
oui.
Je l'ai faite disparaître. Elle l'a abandonnée à la naissance.
Alors là, c'est vous transformez en prestidigitateur.
Oui, mais et d'ailleurs, je me suis promis que je n'écrirai plus de roman dans lequel la mère jouera un personnage principal.
Michel.
Oui, mais c'est. Alors, c'est le complexe d'Oedipe à l'envers, ça.
Presque.
Jean-Pierre. Parce que là, vous n'avez pas tué fait le père dans ce roman.
Non.
Vous avez tué la mère. Effectivement. Symboliquement, bien entendu, quoi.
Oui.
Mais quand même, quoi. Il y a effectivement tout ce processus qui, parce que quasiment thérapeutique, fait à l'œuvre dans votre thématique, là.
Oui.
Dans ce livre en particulier. Et si j'ai bien compris, depuis le début que vous écrivez.
Oui. Ben, en fait, c'est certainement, après, vous savez, on est un individu, et puis dans chacun de nous, il y a toute la masse de la famille, de tout ça, des mœurs, de l'hérédité, etc., etc. Il s'est trouvé que mon père était un personnage qui travaillait, qui lisait, mais qui n'intervenait jamais dans la vie familiale.
C'est ce que je viens de lire à une page de votre livre.
Ouais. Et donc c'est... Tous les reproches qu'on avait à faire.
Ça a façonné votre enfance.
Voilà. Et donc, tout ce qui n'allait pas, mais forcément, c'était sur le dos De la mère, puisque c'est elle qui s'occupait de tout.
Alors, ce qui est marrant, c'est que votre père lisait, mais vous écrivez.
Oui.
Voilà. Donc, c'est une espèce.
C'est peut-être une relation de cause à effet, ça.
Bien sûr. Peut-être. Qui peut expliquer cette espèce de relation triangulaire, très singulière, là, qu'on voit à l'œuvre dans votre écriture.
Ben ouais, ouais. Mais... Après, est-ce que c'est thérapeutique? Je ne sais pas, parce que vous voyez, bon.
Non, mais en tout cas, ça marque effectivement une conscience.
Ah oui, 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 ah oui, 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 c'est clair, c'est clair. Vous savez, encore maintenant, je suis incapable de vous dire si j'ai été un mauvais garçon ou si ma mère a été une mauvaise mère. Et je ne peux pas trancher.
Et votre père, un bon père.
Et mon père, un bon père. Et je ne peux pas trancher. C'est pas possible.
Alors voilà donc exposé le fond de ce roman, Né de mère inconnue, qui est le dernier que vous venez de publier, Jean-Pierre Grotti. Et on va revenir. Alors, il est publié à quelles éditions?
Ben, je suis resté fidèle à TDO, donc c'est Terre du Sud. C'est une maison d'édition catalane.
C'est à Poyestre.
À Poyestre, qui est en train de prendre une extension certaine, puisque son créateur va aller s'installer dans les Landes pour faire comme une succursale de ce qui se fait à Perpignan. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de se placer sur Montpellier. C'est petit à petit, je pense qu'on arrive à toucher un peu plus que l'Occitanie.
Ah oui, encore un qui va finir ministre de la Culture un jour.
je le lui souhaite. En tout cas, c'est un jeune, il n'a pas 40 ans, mais c'est vraiment un super entrepreneur.
Alors donc, tout ça pour dire que alors, vous êtes un écrivain, vous ne répudiez jamais l'étiquette écrivain du terroir, que je sache. Pour vous, ça n'a...
Oui et non, enfin...
Alors dites, expliquez.
Alors, c'est très simple.
Parce que pour certains, c'est péjoratif.
Non mais déjà, Jean-Claude, en fait, le thème de ce roman que l'on vient d'exposer rapidement...
Ah, est universel.
Il est universel.
Voilà. Universel, bien sûr.
En fait, je fais la différence. Je préférerais... écrivain régional à écrivain de terroir. Parce que je trouve qu'un un roman de terroir, c'est un roman dans lequel la terre, les traditions, la propriété jouent un rôle essentiel. J'en ai écrit, qui ont très bien marché, le figuier de Paul, la vigne de Jean, peut-être même Juliette Lessignan, sont des romans de terroir. Par contre... des romans comme De mère inconnue et bien d'autres, je ne les ai pas tous en tête, c'est mon 13e publié. Ce sont des romans qui se passent dans la région,
oui,
qui touchent bon, le vieil homme qui rêvait d'amour, c'est un bonhomme qui va essayer de se changer, ça n'a rien à voir.
Bon. Ou Juliette, elle va se promener en Argentine, si je me souviens bien. Oui,
vous savez, mais Jean-Claude, je ne sais pas si je l'ai dit. Dit la dernière fois, mais un grand romancier, en fait, un écrivain portugais, Miguel Torga, a écrit un jour l'universel. Il a vécu toute sa vie dans un tout petit village du Portugal, dans le sud en fait, du Portugal. Il a écrit un jour cette phrase qui est absolument superbe. L'universel, c'est le local, moins les murs.
Oui.
Mmh. Hein, oui, effectivement, on peut parler de l'universel dans un tout petit village.
Bien sûr, et quand on parle de psychologie, la psychologie de l'homme, elle est universelle.
Moi, je pense tout à fait ce que vous avez dit, mais d'une autre façon, je dis simplement que à travers un bon artiste, il va faire découvrir le monde à travers un microcosme, à travers un détail, il est capable d'élever les choses jusqu'à l'universel. Parce que saisir l'universel, c'est impossible. Mmh. Mais à partir de ce qu'on a devant les yeux, bon, arriver à faire rêver, à trouver un écho chez les gens, ça c'est important. Un peintre, d'un oiseau qui passe, il va faire un tableau qui va éveiller plein de choses. Un écrivain, c'est pareil.
Alors justement, donc vous êtes écrivain, vous publiez, vous arrivez apparemment à publier confortablement, on va dire, dans une maison dont vous avez dit qu'elle est en plein dynamisme et en pleine expansion. Donc aujourd'hui, contrairement à ce que certains pourraient penser, il y a de la place pour le livre dans notre société.
Oui, même si de l'aveu même des éditeurs et tout, c'est un peu plus difficile. Bon, moi, il m'arrive.
Mais parce qu'on est en province ou parce que c'est la société actuelle?
Bon, déjà, il y a un problème financier. Un livre, ça coûte relativement cher, et nous qui dédicassons souvent, bon, dans des endroits où nous nous faisons critiquer un peu, parce que nous dédicassons souvent dans des hypermarchés, bon, c'est vrai que ce serait peut-être mieux de dédicacer dans une librairie.
L'un n'empêche pas l'autre.
Oui.
Mais peut-être que la demande n'est pas la même.
La demande n'est pas la même. Et très souvent, nous voyons des gens qui sont très intéressés, mais qui tournent le livre, qui regardent la quatrième, qui regardent le prix. Mmh. Ça arrive. Après, je pense que l'amour de la lecture n'est pas quelque chose de désuet. Il y a toujours des lecteurs. Bon, de temps en temps, il y en a qui nous disent « j'utilise les tablettes, etc. » Mais pas plus que ça.
Oui. Bon, le livre papier tient bon la rampe, si je puis dire.
Je pense, oui.
La preuve, c'est que vous avez vécu, il y a quelques semaines à peine, le Salon du Livre et de la Jeunesse à Narbonne.
Oui. Alors... Qui est pour, non seulement pour moi, mais pour beaucoup d'éditeurs, tout ça, qui est une réussite, qui est un salon qui marche bien. Je pense que c'est un salon qui a la juste mesure entre le gigantisme du Salon du Livre de Paris, par exemple, où on ne va plus, et le tout petit salon de village où il y a plus d'écrivains que de lecteurs. C'est un lieu convivial où tout le monde se voit, tout le monde peut se parler. Je pense que c'est bien.
Et alors vous, qu'est-ce que vous en tirez, Jean-Pierre Grotti, en tant que vous y allez, en tant que romancier, en tant qu'auteur? Vous rencontrez alors des collègues, bien sûr, d'autres écrivains, mais vos lecteurs aussi.
Ben, je vous dirais que je suis quelqu'un de très solitaire. Et donc je suis beaucoup plus intéressé par le contact avec mes lecteurs que par le contact avec d'autres écrivains. Par exemple, j'étonne toujours les gens quand je leur dis que je ne lis jamais les grands classiques, entre guillemets, du terroir. Je ne lis aucun roman de ce style. Parce que, voilà. Par contre, les lecteurs, peut-être, je ne cherche pas à être insensé ni rien, mais... Quand quelqu'un vous dit « Ah ben, il me tardait le dernier, j'ai tous vos romans, tout ça », ça me booste. En parlant franco-anglais, non, mais c'est très important, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le métier, pendant un an, je suis seul.
Voilà.
Je suis seul face à mon ordinateur, face surtout à mes doutes, à mon anxiété, à mon angoisse, à mon incapacité à juger de ce que je fais. Et donc, quand le roman est sorti...
C'est le diagnostic qui arrive.
Voilà, même si ma garde rapprochée, c'est-à-dire ma femme, mes deux frères, ma sœur, m'ont déjà dit...
Ouais, on dégrossit un peu les...
Mais en fait, s'ils me disent que ça leur a plu, je l'envoie à l'éditeur, ou sinon je ne l'envoie pas. J'en ai trois ou quatre que je n'ai pas envoyé.
Oui, d'accord. Donc, quand même, vous écoutez la vie des autres avant.
Donc,
vous n'agissez pas de manière aussi solitaire que ça.
Mais vous savez, je pense qu'il n'y a que les imbéciles qui sont sûrs d'eux. Parce que finir un roman, dire « Tiens, je viens de faire encore un chef-d'œuvre », ça me paraîtrait...
Et alors, quand vous sortez d'un salon comme ça, est-ce que, on va conclure là-dessus, Jean-Pierre Grotti, est-ce que vous sortez avec, finalement, une idée, votre prochain roman en tête?
Non.
Non.
Non. Non.
Comment
non.
ça naît, l'idée qui va vous porter sur une année de travail?
C'est... Alors, déjà, quand je sors du salon, ça veut dire que je viens que le roman est fini, tout ça, et... Il y a beaucoup d'angoisse, tout ça, d'anxiété, parce que j'ai toujours peur de ne plus avoir d'idées. Bon, ça, c'est quelque chose qui est tout
l'angoisse
à fait...
L'angoisse de la page blanche.
Non, c'est pas la page blanche, parce que quand je commence un roman, je sais où je vais. Je sais comment il va finir. Donc, c'est surtout l'angoisse du roman blanc, si vous voulez. C'est pas la page, c'est le roman. Et après, honnêtement, je ne...
Ça vient comme ça, il n'y a pas une recette.
Non, il n'y a pas de recette. Tantôt, c'est un flash, et là, qui est très porteur, qui est tout de suite. Tantôt, ça commence à être une agglomération d'idées qui petit à petit quelque chose qui se matérialise.
C'est plus laborieux et ça prend que
voilà,
ça prend
corps. Un peu plus et ça prend corps petit à petit.
Mmh. Ben, il ne reste plus peut-être qu'à brosser le portrait entre guillemets quoi, en tout cas l'histoire de votre papa qui lui travaillait.
Et lisait,
oui. C'est-à-dire que c'était un grand taiseux probablement.
Oui, mais en fait...
Et un grand solitaire comme vous.
Pour vous dire, ça serait vraiment une histoire intéressante, puisque c'est un Italien qui est arrivé en France à 18 ans, qui avait... Et bon, avec toute l'insouciance, toute la vanité de la jeunesse, je n'ai jamais... Lui ne nous a jamais rien dit sur son enfance italienne. Pourtant, à 18 ans, on a des souvenirs. Et nous, on l'a jamais cherché à le savoir.
À savoir d'où il venait.
Voilà. Pour vous dire, je suis allé voir son village natal quand il est mort. Mmh. Quand il est mort, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que tu ailles voir son village natal.
Alors, Jean-Pierre Grotti, merci d'être venu. C'est peut-être le thème d'un futur roman, ça, pourquoi pas.
Peut-être.
D'explorer, et à partir de là, de reconstituer. Merci donc, Jean-Pierre Grotti, alors, écrivain régional, je rectifie, pour être très clair, d'être venu nous parler de ce dernier roman que vous avez produit, Né de mère inconnue. Prochaine invitée, au féminin pour le radiobarque suivant, ça sera Catherine Bossis, qui est conseillère municipale socialiste de l'opposition à Narbonne, mais qui est également une des vice-présidentes du conseil départemental, chargée notamment de la jeunesse, ou de l'enfance plus exactement, et de l'insertion professionnelle. Donc on reviendra sur des sujets politiques un petit peu plus courants, et Michel, tu peux déjà affûter tes analyses.
Oui, je vais
merci.
Donner quelques questions à lui poser, oui.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.